20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
It's astonishing. It's momentous. It has no precedent.
C'est stupéfiant, c'est considérable, explique ce journaliste de la BBC.
The palace is very upset about what's happened.
Le palais est très en colère. Il faut dire que la reine Elisabeth n'a pas été prévenue, ni aucun membre de la famille royale, Harry et Meghan, ont décidé seuls de prendre cette décision.
8 janvier 2020, coup de tonnerre sur la monarchie britannique. Harry et son épouse Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, renoncent à leur rôle au sein de la famille royale, un an et demi seulement après leur mariage, sous les yeux du monde entier et le regard bienveillant de la reine Elisabeth. C'est désormais officiel. Après des mois de tensions, de rumeurs et de négociations, le prince et son épouse quittent avec fracas l'Angleterre et s'envolent pour le Canada avec leur fils Archie, sans pouvoir, mais toujours riche à millions. Une décision radicale et irréversible qui sonne le glas d'une relation privilégiée entre la reine d'Angleterre et son petit-fils préféré, rebelle, fêtard, attachant, tiraillé entre ses élans de liberté, ses devoirs et son histoire d'amour, qui d'abord saluée par l'opinion, aura fini par diviser les sujets de Sa Majesté. Alors que s'est-il passé derrière les grilles de Buckingham Palace, dont les murs recèlent tant de drames et de secrets ? Comment cette union entre Harry et la star de série américaine, féministe, affranchie et déjà divorcée, est-elle devenue l'un des plus grands drames familiaux de la monarchie, déjà fragilisée par tant de tragédies et de scandales ? Et puis Meghan Markle, d'abord considérée comme un joyau pour la couronne, est-elle vraiment cette femme manipulatrice et malhonnête comme la décrivent certains biographes ? Ou est-elle simplement une femme ? Une femme qui ne se soumet pas aux exigences de la firme, comme elle l'appelle, et qui fait planer au-dessus du palais le fantôme de la libre Diana. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Thomas Pernette, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur RTL. Vous êtes reporter à Point de vue. Nous allons tenter, évidemment, ce soir jusqu'à 21h sur RTL de comprendre ce qui s'est passé ce fameux 8 janvier 2021. Mais alors, de mémoire de journaliste spécialiste des têtes couronnées, est-ce que vous aviez déjà vu un conte de fées virer, je dirais, au drame aussi rapidement au cœur d'une monarchie ?
Alors, des drames, il y en a eu. C'est vrai que souvent, il faut un peu plus de temps, mais on pense bien sûr au mariage catastrophique entre Charles et Diana. Plus loin dans le temps, à la reine des Belges, la reine Astrid, qui est morte tragiquement dans un accident de voiture. Il y a eu des drames burlesques. Andrew et Sarah Ferguson. Sarah Ferguson, on l'a oublié, mais dans les années 90, on l'a retrouvée en train de se faire lécher les orteils par son conseiller financier. Mais un drame comme celui-ci, en effet, en l'espace de 2 ans à peine, avec la caisse de résonance des réseaux sociaux, c'est une première et malheureusement, c'est une première qui ne fait plaisir à personne.
Voilà, une première qui vient effectivement, des précédentes. Alors, c'est une première dans son genre, mais on a quand même le sentiment que la monarchie britannique est souvent soumise, malheureusement, au scandale.
Regardez les années 90. Les années 90, ce sont les pires années des Windsor. Sur 4 enfants, 3 divorces. Elisabeth II n'a gardé comme bru que la femme de son fils cadet, le prince Édouard. Et bien sûr, c'est une famille qui, malheureusement, non pas se nourrit des scandales, mais a été tout au long de son histoire bouleversée par ces scandales.
Alors, il faut dire aussi que ce qui arrive dans la vie, dans votre vie, dans la mienne, dans la vie de tout à chacun, c'est pas ce qui arrive à Buckingham.
C'est vrai.
Ça prend évidemment d'autres proportions, c'est-à-dire qu'un divorce à Buckingham, évidemment, ça vire tout de suite au drame. Néanmoins, on ne s'attendait pas forcément à ce que cette histoire entre Harry et Meghan deviennent quelque part une tragédie au sein de la famille, puisque je parlais des relations entre Harry et sa grand-mère. Harry qui, je le crois, était le petit-fils préféré de la reine Elisabeth.
Bien sûr, c'est à la fois l'enfant terrible de la monarchie, un jeune garçon qui a fait les 400 coups, et à la fois un homme qui a été brillant, qui a été adoré des Britanniques, et qui épouse une jeune femme qui amène un souffle nouveau, un vent de fraîcheur, et tout cela se termine, vous avez raison de le dire, c'est un drame, c'est même un drame shakespearien. Et c'est pas fini.
Quelle est l'image d'Harry et de Meghan auprès des sujets britanniques aujourd'hui?
Ah, je vais vous donner des chiffres. Avant ce qu'on appelait le Mexit, en janvier 2019, Harry, c'était le membre le plus aimé de la famille royale britannique. 77% d'opinion positive. Aujourd'hui, il est à 31%. Une chute de 46 points. C'est pas une chute, c'est pas une dégringolade. C'est carrément un trou abyssal. Quant à Meghan, elle est également comme son mari, la troisième moins aimée des Britanniques. En dessous, le plus impopulaire, c'est le prince Andrew, qui, comme vous le savez, est aujourd'hui empêtré dans un scandale sexuel suite à l'affaire Jeffrey Epstein. Donc on peut dire que les stars, les rockstars, sont devenus les moins aimés.
C'est-à-dire qu'ils sont moins populaires que Camilla Parker Bowles?
Bien sûr. En fait, nous, Français, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est resté bloqué dans les années 90 où Camilla était la méchante, c'était la sorcière. C'est elle qui, limite, conduisait la voiture dans laquelle Diana a trouvé la mort. Aujourd'hui, Camilla, les Britanniques lui reconnaissent une chose, en dehors de son humour, c'est qu'elle travaille. C'est qu'elle est, en ce moment, à Londres, au nord du Pays de Galles, en Écosse ou à travers le monde. Elle représente la couronne et c'est ce que ne fait plus aujourd'hui Meghan et Harry.
Je te prends Meghan pour épouse, pour t'avoir avec moi et te garder dès aujourd'hui et pour toujours, pour le meilleur et pour le pire, dans l'abondance et la pauvreté, dans la maladie et la santé, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Un vent d'amour absolu et de modernité souffle sur la monarchie britannique. Elle est afro-américaine, déjà divorcée, accomplie, engagée, de 3 ans l'aînée de son époux. Sa vie bascule en même temps que le cœur des sujets britanniques pour cette jeune femme qui, pense-t-on, apaisera les élans fêtards et rebelles du prince le plus convoité de la planète. C'est vrai qu'il est quand même assez canon, Harry. Thomas Pernette, vous êtes notre invité, vous êtes reporter à Point de vue, spécialiste des têtes couronnées. Comment la famille royale a-t-elle accueilli Meghan Markle?
Alors très bien. D'ailleurs, Meghan Markle l'a dit plus récemment, et on en parlera certainement plus tard de cette interview d'Oprah Winfrey, elle a dit « La reine a toujours été merveilleuse avec moi.
Ouais. »
Quant au prince Charles, il l'a quand même conduit à l'hôtel. C'est pas son père Thomas Markle qui emmène Meghan jusqu'à l'hôtel. C'est
parce qu'elle
était
en froid avec son père.
En froid, parce que c'est un homme qui a certainement trop parlé dans les médias. Officiellement, sa santé est chancelante, mais la réalité, c'est qu'on est bien content que le papa de la mariée ne soit pas là.
D'accord.
Que seulement sa mère Doria soit présente à Windsor. Mais après, on a dit un peu plus tard que peut-être le prince William avait trouvé que cette histoire allait un petit peu vite. C'est simple pour lui, le prince William. Il a attendu 9 ans avant de demander Kate Middleton en mariage. Alors pour lui, cette jeune femme qui est arrivée il y a un peu plus d'un an dans la vie de son frère et dans la monarchie britannique, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait, on ne sait jamais, ne pas se plaire. Alors pourquoi se presser? Néanmoins, Harry l'a voulu, il se marie, et en effet, c'est le show incroyable que nous avons tous connu. On était 2 milliards de téléspectateurs quand même devant notre écran.
Elle a été particulièrement bien accueillie par la reine, et pourtant elle avait un bagage. On n'aurait pas forcément pu imaginer qu'une afro-américaine, déjà divorcée, femme accomplie, on y reviendra, une carrière incroyable, un compte Instagram qui explose. On n'aurait pas forcément imaginé ce genre de femme au sein de la famille royale.
Sauf que la reine a déjà eu les brus idéales. Les Lady Diana.
Ça lui fait du bien,
en fait. C'est surtout qu'elle a vu comment ça s'est terminé.
Ouais.
Et ça s'est pas forcément bien terminé. Alors avoir un mariage d'amour, c'est quand même mieux. Et puis Meghan est peut-être différente, mais elle apporte ce vent de fraîcheur. Vous avez des jeunes filles qui suivent Meghan Markle parce qu'elle est l'actrice de Suits aux États-Unis. Mais des gens qui ne s'intéressent pas du tout au Windsor. Il faut se rappeler que la reine du Royaume-Uni est aussi reine du Canada, elle est aussi reine d'Australie. Cette jeune femme qui rentre, c'est une pop star. Et puis c'est aussi une femme engagée, libre, certainement trop libre dans sa parole, mais elle donne toutes les promesses de faire la parfaite princesse.
Est-ce qu'on se dit à ce moment-là aussi, au sein de ce qu'on appellera donc la firme, à un moment donné, on y reviendra, est-ce que l'on se dit, quelque part, c'est une aubaine aussi pour l'image moderne de la cour d'Angleterre?
C'est un diamant brut. Et un indice, après le mariage, seulement 4 semaines après son mariage, la reine emmène Meghan Markle en déplacement en solo. C'est-à-dire qu'elles partent toutes les deux à Chester, elles prennent le train royal. Jusque-là, Harry n'a jamais pris le train royal. Elles partent toutes les deux. Kate a dû attendre 8 ans avant d'avoir un solo avec la reine. On voit bien que même si elle apprécie beaucoup cette jeune femme, cette nouvelle petite fille qu'elle accueille à bras ouverts, elle y voit aussi, et Buckingham y voit aussi, une formidable aubaine en termes de retombées presse, de retombées médiatiques, de retombées économiques. Même le mariage de Meghan et Harry, ça a apporté plus de 4,4% supplémentaires de touristes en Grande-Bretagne en 2018. On se rend pas compte, mais c'est énorme.
J'ai même acheté un mug, moi.
C'est vrai?
Un seul,
Flavie, vous m'étonnez.
Et j'en prends soin, je peux vous dire, parce que je sais que maintenant, intéressant, ces collecteurs. Dites-moi, Thomas Pernette, on sait aussi à quel point Harry et son frère étaient très liés. Aujourd'hui, la relation est quand même difficile. Comment, justement, je dirais que la jeune garde de la monarchie a-t-elle vu arriver Meghan ?
Alors, au début, on s'est dit, notamment nous, qui n'avons pas malheureusement encore, peut-être vous Flavie, mais nos entrées à Buckingham, voilà les Fabulous Four, les Fab Four. Une équipe formidable, ouais. Quand même quatre. Surtout que Harry s'entendait très bien avec son frère, bien sûr, leur passé commun, cette enfance difficile, la mort de leur mère les a énormément rapprochés, mais il s'entendait aussi très bien avec Kate. Kate était un peu, on va dire, l'élément féminin, un peu une seconde maman à un certain moment. On s'est dit, mais ces quatre-là, c'est les quatre as, c'est les quatre rois du jeu de cartes, ça va être incroyable. En fait, très vite, on se rend compte qu'il n'y a pas une franche chaleur entre les deux belles-sœurs. Mmh. Kate et Meghan, c'est un peu le feu et la glace.
Elles sont radicalement opposées.
Tous les opposent. Mmh. Tous les opposent. Vous avez une femme libre qui n'hésite pas à dire que Trump, ce n'est pas sa tasse de thé, qui n'hésite pas à prendre la parole politiquement. Et à côté, vous avez, même si elle n'est pas noble, une Kate Middleton qui a appris à tout, qui est Miss Parfaite. Et qui a appris certainement ce qui est plus important pour survivre et voire même pour être populaire dans la famille royale, qui a appris à se taire.
Oui, c'est ça. Et ce qui n'est pas le cas de Meghan Markle. Néanmoins, Meghan est arrivée dans cette famille, on pourrait l'imaginer en étant bien consciente de ce qui l'attendait. Elle était rompue à l'exercice de l'extrême médiatisation. On va se retrouver dans un instant, car on va parler de cette fameuse pression médiatique qui a été invoquée par Harry et Meghan, très tôt d'ailleurs, hein, bien avant la rupture, où ils se sont plaints. Ils ont demandé aux tabloïds de calmer le jeu. Ça nous fait forcément penser également à l'histoire de Diana. On y reviendra dans un instant. Jour J, c'est en direct sur RTL jusqu'à 21h. Merci d'être là. C'est notre nouveau rendez-vous tous les soirs, jour J, de 20h à 21h en direct sur RTL. Heureuse de vous retrouver. Et pour cette première, nous revenons sur ce 8 janvier 2020. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle annoncent renoncer à leur rôle au sein de la famille royale britannique. Ils s'étaient rencontrés en 2016. Meghan était alors une star aux États-Unis. Son compte Instagram affichait presque 3 millions de followers. Elle vivait sous le feu des projecteurs. Thomas Pernette, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. On pourrait se dire, en fait, quand on découvre Meghan Markle, quand on la connaît, comédienne, star américaine, on pourrait se dire qu'elle est rompue à l'exercice d'une extrême célébrité, popularité.
Alors oui et non. Oui, c'est une femme qui a l'habitude aussi bien de la lumière que des journalistes, que des médias, que des caméras. Mais être star, être princesse, c'est pas la même chose. Et surtout, elle n'a pas l'habitude des tabloïds. Et les tabloïds, c'est une famille de presse qui est particulière. Et je pense que le grand drame de Meghan et d'Harry, c'est un moment d'avoir voulu faire sans les tabloïds, voire contre les tabloïds. Et quand vous lancez une guerre contre les tabloïds, c'est pas sûr que vous gagnez. C'est même
assez rare. C'est-à-dire qu'en fait, à vous écouter, ils ont... Alors, il y a quand même des tabloïds aux États-Unis.
Oui, oui, mais ils n'ont pas du tout de famille royale, donc ils n'ont déjà pas la même relation.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils vont être durs sur les politiciens, notamment sur la transparence. Mais jamais on va vous reprocher aux États-Unis de croiser les jambes à une apparition publique ou de fermer vous-même la portière de votre voiture.
Oui, ce qui a été effectivement le cas, qui aurait pu paraître comme un geste, au contraire, plutôt
anodin,
humble,
qui a été vu comme
même humble.
un geste de révolution.
Voilà, parce que Meghan Markle avait donc fermé elle-même, claqué la portière de sa voiture et n'avait pas attendu qu'on le fasse à sa place. Non, mais si je me pose cette question quand même, Thomas Pernette, c'est que, à vous écouter, finalement, ils ont presque provoqué l'acharnement des tabloïds en voulant les tenir à distance officiellement.
Alors, c'est difficile parce que, malgré tout, il y a une pression, en effet, qui tombe sur les épaules de cette jeune femme qui, certainement, ne s'attendait pas à un tel commentaire, à de tels références chaque jour sur ce qu'elle fait pas. Elle a le petit Archi, il y a quand même des tabloïds qui vont se dire, et qui vont dire publiquement, elle ne le tient pas correctement. Quand vous êtes une jeune mère, que vous soyez princesse ou pas, qu'on puisse oser dire publiquement ou juste en face à face que vous ne savez pas tenir votre enfant, c'est quand même très dur. Donc c'est vrai que ça va très loin. La guerre va très loin. Néanmoins, par les réseaux sociaux notamment, et par Instagram, on parlait d'Instagram, vous le disiez tout à l'heure, ils ont voulu faire sans. Et ça, c'est pas possible.
Mais on l'a obligée, elle, à couper son compte Instagram.
Oui, oui, on l'a obligé, mais ils ont ouvert un compte Instagram, Sussex Royal, qui totalisait à l'époque 10 millions de followers. Je peux vous dire que c'était un canal direct pour parler à leurs fans et aux fans du monde entier.
Oh, j'y suis pas allée.
Ça, la presse n'aime pas. Mais n'y allez pas parce qu'en ce moment, ils n'ont plus le droit de l'utiliser. Ils n'ont plus le droit d'utiliser ce terme, ce nom de Sussex Royal.
Okay.
Mais Bien sûr que les tabloïds ont été terribles avec eux, avec elle, et je ne vais pas me mettre en Meghan bashing, c'est pas du tout le cas. Néanmoins, je pense que de leur côté, ils n'ont peut-être pas joué le jeu comme William et Kate jouent le jeu à la perfection.
Elle a subi un Meghan bashing ?
Oui. Oui, ou du moins, elle a toujours été comparée à Kate. Moi, pour moi, le turning point, le point où tout bascule, c'est au moment de la naissance d'Archie. C'est-à-dire que Archie naît le 6 mai 2019. Il faut attendre 2 jours avant qu'il nous présente l'enfant. Kate et William, ils présentent leurs enfants au bout de 3 heures hein, sur les marches de l'hôpital.
Elle vient d'accoucher,
elle est magnifique. Et puis pour le baptême, ils ont tenu à la fois hors de jeu les tabloïds et les Britanniques au moment où on apprenait que la restauration et la rénovation de leur résidence de Frogmore Cottage coûtait 2,4 millions de livres aux contribuables. C'était pas très malin. Et ensuite, c'est allé de mal en pis.
Voilà, donc il y a eu des erreurs de communication. En tout cas, en 2019, lors d'un voyage en Afrique, Harry et Meghan répondent aux questions d'un journaliste de la BBC pour les besoins d'un documentaire que vous connaissez, An African Journey. Et là, la star américaine, effectivement, se livre sur une pression médiatique à laquelle, dit-elle, effectivement, elle ne s'attendait pas.
C'est dur. Je pense que personne ne peut comprendre ça. Mais en toute honnêteté, je n'en avais pas idée. Ce qui peut paraître difficile à comprendre. Mais quand j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari, mes amis étaient heureux, car j'étais heureuse. Mais mes amis britanniques m'ont dit, je suis sûre qu'il est très bien, mais tu ne devrais pas faire ça. Les tabloïds vont détruire ta vie. Et naïvement, parce que je suis américaine et qu'on n'a pas ça là-bas, je leur disais, mais de quoi tu parles? Ça n'a pas de sens. Donc oui, ça a été compliqué.
On est quand même loin, là, Thomas Pernet, du Never Explain, Never Complain, si cher à la couronne. Hein.
Ah oui, et puis en plus, rappelons qu'on est dans un déplacement à l'étranger, en Afrique. Déjà, la reine n'aime pas quand on lave le linge sale en public, mais qui plus est, en dehors des frontières, dans un déplacement. Je vous rappelle que quand Meghan et Harry, quand n'importe quel membre de la famille britannique part en déplacement, c'est quand même à la demande du gouvernement britannique ou du Commonwealth, à la demande du ministère des Affaires étrangères. Donc là, on a ces gens qui, malgré tout, sont dans les pays les plus pauvres du monde, qui se plaignent. Et qui plus est, alors ça a certainement joué psychologiquement, c'est un voyage qu'ils ont voulu sur les traces de Diana. On se rappelle tous de Diana et de son combat contre les mines antipersonnelles. D'ailleurs, pendant ce voyage, Harry ira et mettra lui aussi la tenue et ira marcher sur ses champs de mines. Néanmoins, je suis désolé, je comprends la tristesse. Pour beaucoup d'observateurs, il y a un petit peu d'indécence.
Donc il y a un vrai problème de communication. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le fond qu'ils sont véritablement attaqués, mais c'est plus sur la forme.
Bien sûr, et cette façon de répondre comme ça, pour ce documentaire, à ce journaliste d'ITV, a aussi beaucoup choqué les Britanniques, sachant que Harry, lui aussi, a été interviewé pour ce documentaire. Et il l'a dit, et on le comprend, et on connaît sa sincérité. Il a dit, j'ai tellement peur que l'histoire se répète. Oh oui. Il parle de Diana.
On l'entendra, justement, dans un instant. Alors, Meghan, visiblement, n'avait pas compris à quoi elle s'exposait en entrant dans la famille royale britannique. La reine, elle a dû être furibarde, non ?
C'est difficile de savoir ce que éprouve la reine, et encore plus ce que peut bien dire. Vous savez que la reine n'a donné aucune interview tout au long de sa vie. Les seules fois où elle s'exprime en dehors de ses discours, c'est par voie de communiqué de presse. On imagine que ça n'a pas dû trop lui plaire, en effet. Et ça n'a certainement pas plu à Charles, et ça n'a certainement pas plu à William.
Ça rappelait aussi Diana.
Ah, on est complètement là-dedans. On est dans un début de feuilleton médiatique, où finalement, la couronne est pas encore menacée, mais du moins mise à mal. Et là, c'est encore plus terrible que ces gens-là sont en plein dans la firme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un divorce, là. Ils s'aiment, ils sont les rockstars, on l'a dit, de ce système. Et en plus, ils commencent à dire que le système ne fonctionne pas vraiment, alors qu'ils en vivent et qu'ils représentent ce système, cette institution monarchique.
On va se retrouver dans un instant, car vous faisiez référence à Harry, qui effectivement a suivi, je dirais, a marché sur les pas de Meghan lors de ce voyage, puisque lui-même s'est exprimé. Et peut-être aussi que ça a envenimé les choses. Hein. C'est-à-dire que ça n'était pas des paroles isolées de Meghan, mais on a senti tout de suite la solidarité du prince auprès de son épouse. Jour J, c'est tout de suite et c'est en direct sur RTL.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Heureux heureuse de vous retrouver pour jour J, notre nouveau rendez-vous en direct sur RTL de 20h à 21h. On revient sur ces grands événements qui ont marqué notre mémoire collective. On les revisite ensemble et en compagnie donc de nos invités. Ce soir, Thomas Pernet, vous êtes spécialiste des têtes couronnées. Merci vraiment d'être avec nous, Thomas. Vous êtes également reporter à Point de Vue. Donc on va dire que la famille royale, c'est votre dada.
J'adore ça.
Et que quand on parle d'Harry et de Meghan, qui le 8 janvier 2020 ont décidé de renoncer à leur rôle au sein de la famille royale britannique, évidemment, on veut vous recevoir. Parce que ça n'a pas eu que des conséquences, je dirais, people, cette histoire. Ça a eu des conséquences beaucoup plus graves, au cœur même, je dirais presque, de l'Angleterre. Et vous nous parlez aujourd'hui quand même d'un désamour des sujets de Sa Majesté vis-à-vis d'Harry, qui a été leur préféré.
Oui, bien sûr. Alors, on pourrait se dire, Harry ne sera jamais roi. Il n'y a pas de conséquences institutionnelles. Finalement, c'est une affaire privée. Sauf qu'une affaire privée, non, il n'y a pas d'affaire privée chez les Windsor. Cette monarchie, c'est une monarchie d'image. Et l'image qu'il donne au monde entier, bien sûr, qu'elle soit bonne ou mauvaise, rejaillit sur tout un pays. Et honnêtement, la publicité en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, n'a pas été très bonne. Dans le monde entier, c'est différent. Finalement, les jeunes américaines, elles se retrouvent plus dans ce personnage, notamment de Meghan, même les jeunes australiennes. Mais voyez, même les indépendantistes, les républicains australiens ont essayé de jouer là-dessus et ont dit, de manière un peu amusante, mais néanmoins vraie, après tout, si Meghan et Harry peuvent quitter la couronne, on pourrait aussi quitter la couronne et avoir un président de la République plutôt que d'avoir la reine.
C'est quand même aller loin.
Et ça peut donc avoir, au final, des conséquences institutionnelle ou politique.
Qu'est-ce qui explique est-ce que c'est justement leur rang qui explique à un moment donné que William et Kate se plient à toutes les exigences couronne ?
Bien sûr, quand vous êtes... En fait, pour être totalement honnête avec vous, la place de cadet dans une famille royale, c'est la pire. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes, et d'ailleurs les Anglais le disent bien, ils disent vous êtes le réserviste. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire, puisque si jamais votre aîné doit disparaître, vous allez être l'héritier. Et d'un autre côté, il faut bien se trouver une place. Mais pour faire quoi? Et on a vu ce Harry qui a été la tête brûlée, qui a fait la fête, qui a mis la famille parfois dans des situations pas possibles. À un moment, il s'est quand même déguisé pour une fête en Asie. Je peux vous dire que quand on est Elisabeth II et le prince Philippe, on est un petit peu en colère et plus que ça. Il a trouvé quand même son chemin, sa voie dans l'armée. Il était 10 ans dans les rangs de l'armée britannique. Et on espérait qu'avec Meghan Markle, il puisse continuer à faire profil bas tout en représentant très dignement la couronne. Et on a bien vu, et on va le voir encore ensemble ce soir, que ça n'a pas été le cas.
Et justement, lors de ce fameux voyage en Afrique, pendant lequel Meghan se plaignait de la pression des tabloïdes, Harry n'y est pas allé de main morte non plus. Il parle de protéger sa famille.
Je protégerai toujours ma famille. Et maintenant, j'ai ma propre famille à protéger. Tout ce qu'elle a traversé et ce qui lui arrive chaque jour est extrêmement dur. Et ce n'est pas que je sois paranoïaque, je ne veux simplement pas que l'histoire se répète. Et si vous saviez ce que c'est, vous feriez sûrement la même chose que moi.
Il se livre d'ailleurs aussi sur le traumatisme vécu par sa mère, la princesse Diana, avec les paparazzi et les tabloïdes.
À chaque fois que je vois une caméra, à chaque fois que j'entends un clic, à chaque fois que je vois les flashs, ça m'y ramène tout de suite. À ce sujet, c'est sûrement le pire souvenir que je puisse avoir d'elle. Mais tout ce que je fais me ramène à elle, comme je le disais. Le rôle et toute la pression qui vient avec me rappellent le pire, malheureusement.
Alors ça, Thomas Pernet, on ne peut que le comprendre. Enfin, moi, je les ai compris.
Bien sûr, on peut avoir des critiques parfois dures envers le couple. Néanmoins, le traumatisme, il est réel. Le prince Harry a perdu sa mère et a longtemps cru et croit toujours, et il a d'une certaine manière raison, même s'il s'agit de prendre cela avec des pincettes, que les tabloïdes, que la presse, que cette machine médiatique a conduit à la disparition de la princesse Diana. Et bien sûr qu'aujourd'hui, sa priorité, et comment l'en blâmer, on est tous pareils, sa priorité, c'est aussi avant tout de protéger la femme qu'il aime, surtout quand il voit que l'histoire pourrait se répéter, du moins dans le harcèlement.
Alors, c'est ce qu'il déclare effectivement, et moi, il y a quelque chose qui me surprend. C'est pourquoi, à un moment donné, les sujets de Sa Majesté, cette Angleterre meurtrie par la mort de Diana, ne peut pas comprendre et recevoir les arguments d'Harry à ce moment-là. C'est quoi la différence ?
Il faut aussi se rendre compte qu'ils n'ont pas tout bien fait. C'est-à-dire que là, les extraits que vous montrez sont très justes et réels. On est en septembre, début octobre, tout l'été était affreux. Elle est allée, avant la naissance d'Archie, elle est allée faire une baby shower de 6 jours à New York. 500 000 $ pour 5 jours avec Serena Williams et Amal Clooney.
C'est pas vraiment servir la couronne. On n'est pas très couronne d'Angleterre.
On passe le temps à dire aux Britanniques, attention, le développement de la planète, hop, on part en jet chez Elton John. Alors certes, c'est l'argent d'Elton John. On peut dire qu'on est un peu trop show-off, un peu Hollywood. Les Windsor, ils sont là pour servir. Hein. Le job de princesse, c'est d'être le matin même en Écosse à inaugurer des EHPAD ou des jardins d'enfants. Et le diadème et la robe du soir, c'est 10 fois dans l'année. Peut-être que Meghan n'a pas vraiment compris quelle était l'essence de son travail.
Et c'est ce qui a été reproché à Meghan, non seulement par la famille royale, mais aussi par les Britanniques.
Surtout par les Britanniques, parce que la famille royale, à la limite, ne dit rien. On sent bien au sourire pincé de Kate, qui fait tout de manière parfaite, qu'il n'y a pas une franche, une vraie amitié entre les deux femmes. Mais oui. Alors, alimentés par cette guerre des tabloïds, les Britanniques ont commencé à douter, est-ce que vraiment ces gens servent la couronne et servent nos intérêts?
Alors donc, concrètement, qu'est-ce qu'on leur reproche? De tout vouloir? C'est-à-dire finalement de se plaindre d'un système dont ils sont eux-mêmes complices. Enfin, ils ont le rôle, ils ont les avantages et en même temps ils s'en plaignent, ils crachent dans la soupe.
C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça et peut-être également de ne pas... comment je pourrais dire ça? Never explain, never complain, vous l'avez dit. C'est ça le mojo, le slogan de la monarchie et l'exemple.
Ne pas s'expliquer pour ceux qui nous écoutent, hein,
ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre. Là, ils se plaignent et c'est pas forcément audible. Et encore, on est avant la crise du Covid, enfin avant le coronavirus. On va certainement après faire un bond dans le temps. Je veux dire, Kate, William, toute la famille royale, pendant la crise du Covid, en dehors des périodes de confinement, a continué à servir les Britanniques. Où étaient Harry et Meghan, déjà partis au Canada, puis sous le soleil californien.
Bon, cette interview, c'était l'un des signes avant-coureurs, je dirais, quelque part, de la rupture avec la couronne.
Oui, alors c'est facile a posteriori, parce que nous, maintenant, on est nourris depuis un an avec les différentes étapes. Mais dans tous les cas, pour certains observateurs, surtout qu'elle l'a dit, on a senti quand même qu'il y avait cette fragilité, et elle le dira plus tard, qu'elle avait envie de mettre fin à ses jours. Là aussi, Diana... On apprend en 92, dans une biographie d'Andrew Morton, Diana, A True Story, que Diana a essayé de se jeter dans les escaliers. Voilà, une fois de plus, le parallèle, et le parallèle malheureux, est fait par beaucoup d'observateurs.
En tout cas, le 8 janvier 2020, annonce choc. Harry et Meghan renoncent donc à leur rôle au sein de la famille royale. Une nouvelle vie pour eux, mais ils ne se défont pas du passé si facilement et semblent avoir encore quelques comptes à régler. Un an plus tard, c'était en mars dernier, ils ont accordé une interview à la journaliste star américaine Oprah Winfrey. Des révélations aux allures de grenades dégoupillées lancées sur Buckingham. On y revient dans un instant en direct dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est notre nouveau rendez-vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Effectivement, un rendez-vous qui se poursuit jusqu'à 21h. Merci d'être à notre écoute pour cette première. Et on a décidé de revenir ce soir sur l'histoire du prince Harry et de Meghan Markle, passée en l'espace de 3 ans du conte de fées au cauchemar pour la couronne britannique. Le 7 mars dernier, un peu plus d'un an après leur départ fracassant, on peut le dire, d'Angleterre, dans un jardin sous le soleil de Californie. Ils ont le visage serein, ils se tiennent la main. Le couple se confie à la journaliste star Oprah Winfrey et fait des révélations, on peut le dire, choc.
In those months when I was pregnant,
durant ces mois, lorsque j'étais enceinte, nous avons commencé à parler du fait que notre fils ne bénéficierait pas de protection rapprochée, qu'il n'aurait pas de titre. Et il y a aussi eu ces inquiétudes et des conversations au sujet de la couleur de peau de notre fils à sa naissance.
What?
Quoi? Qui participait à cette conversation?
Cette conversation, je ne la partagerai jamais. Sur le moment, c'était bizarre. J'étais choqué.
Pouvez-vous nous dire quelle était la question?
Non, je ne suis pas à l'aise pour en parler.
Bon, Thomas Pernette, vous savez, vous, alors? Est-ce que vous en savez plus qu'Oprah Winfrey?
Et je ne suis pas sûr d'avoir envie de le savoir.
Non, mais c'est quand même très grave comme accusation.
C'est une bombe, mais ce n'est pas une bombe, c'est une bombe nucléaire.
On n'a jamais envoyé un truc comme ça à la figure de la reine d'Angleterre.
De la famille royale, puisque... Alors, après cette interview, le lendemain, Harry et Meghan ont quand même dû un peu préciser. C'est-à-dire, c'était certainement pas la reine. Encore heureux.
Ni le prince Philippe.
Encore heureux. Qui a bien pu émettre des doutes faire des remarques désobligeantes sur la couleur de peau d'un enfant à naître, c'est indéfendable. Alors, c'est pas la même chose si c'est, je sais pas moi, un membre proche, ou si c'est une vieille cousine. Je citerai pas de nom pour pas donner de... Personne n'en sait rien.
Oui, mais alors, ils savent très bien quand même ce qu'ils font à ce moment-là.
Oui, enfin, certainement.
On a quand même affaire à des gens qui sont censés, bon, même si effectivement on a le sentiment qu'ils ont cumulé les bourdes de communication, ils savent très bien à un moment donné, en répondant ce genre de choses, en donnant ce genre d'infos et en faisant machine arrière, que quelque part ils vont semer le doute.
Tout à fait. Et la bombe est encore plus terrible que l'insinuation va courir comme ouais, ça pendant ça. Des jours, des semaines et des semaines. Alors, deux jours après l'interview, le 9 mars, Elisabeth II fait un communiqué et elle dit que les choses sont très graves, que ce sera traité en privé. Voilà. Jusque-là, rien n'est sorti de cette catastrophe médiatique pour les Windsor. Mais même le prince William, en marge d'un déplacement, il est pris à partie par des journalistes. Est-ce que vous êtes une famille raciste ? Il avance, et puis tout d'un coup, il se retourne, il n'y tient plus. Et lâche, nous ne sommes certainement pas une famille raciste. Il est excédé. Et le problème, c'est qu'en fait, le dommage, il est terrible pour tout le monde. Qui gagne dans cette affaire ? Moi, si ces mots ont été prononcés, je ne peux pas douter qu'ils aient été prononcés. Pourquoi les lâcher comme ça, publiquement ? À qui gagne le crime ? À personne.
Mais selon vous, la reine d'Angleterre, elle a passé un coup de fil le lendemain ? Ou est-ce qu'effectivement, à un moment donné, c'est une sorte de guerre de tranchées ? D'un côté, la Californie, de l'autre côté, Buckingham, et personne ne communique en réalité.
Alors, les Windsor, c'est pas comme votre famille, c'est pas comme ma famille. On s'appelle pas tous les quatre matins pour se raconter sa journée. Pour avoir un entretien, même téléphonique, il faut passer par un secrétariat. On peut pas s'envoyer un texto et dire attends, il faut qu'on se parle. Même pour appeler sa grand-mère. Pour la voir. Et d'ailleurs,
donc, ils n'ont pas communiqué.
Ils n'ont certainement pas communiqué, ou alors de manière, on va dire, indirecte, du moins dans un premier temps. Après, Harry est venu au moment des obsèques du prince Philippe.
Oui.
Là, les choses ont peut-être été dites, certaines en tout cas. On a espéré un apaisement et on a vu que ce n'était pas encore le cas.
D'ailleurs, à ce moment-là, Meghan parle d'une immense détresse psychologique. On écoute.
J'avais vraiment honte d'en parler sur le moment. Et j'avais honte de l'admettre, surtout à Harry, parce que je sais combien il a souffert de la perte d'un être cher. Mais je savais que si je ne le disais pas, je le ferais. Je ne voulais tout simplement plus vivre.
On est conscient quand même quand on dit ce genre de choses, de l'impact que ça va avoir. Pourquoi est-ce qu'un an après... ils accordent cette interview, selon vous, à Oprah Winfrey. Ils auraient pu aller vivre au Canada, on aurait pu en rester là. Un an après, ils prennent la parole.
Il y a deux interprétations possibles, selon moi. La première, qui est plus à leur avantage, même si je ne doute pas de leur sincérité, je ne doute pas de la sincérité de cette jeune femme qui a certainement eu des moments très difficiles dans cette institution qui est quand même très particulière. La première, c'est qu'ils ont besoin de dire leur vérité. Enfin, de
ça
pouvoir parler, ça se comprend, ça aide quand on est dans la souffrance, et c'est ce qu'on fait certains d'entre nous. Enfin, moi, je le fais en tout cas dans un cabinet de psychanalyse. Eux, ils ont choisi Oprah Winfrey comme psychanalyste. Chacun fait comme
il veut. À l'américaine.
Voilà. La deuxième interprétation, pour être un petit peu plus cynique, ils sont en train de construire leur propre marque. Maintenant qu'ils ont quitté le bateau amiral Windsor, quelle est leur vie ? Leur vie, c'est celle de ces princes libres qui ont une fondation à leur nom, qui veulent continuer à exister, qui ont signé des contrats, etc. Et peut-être que c'est l'une des étapes de leur nouvelle vie médiatique.
D'un grand cynisme, quand même.
D'un grand cynisme. Mais je vous ai dit d'abord que je croyais à la sincérité de ces gens, et notamment à la sincérité de cette femme. Moi, je pense que, au fond de moi, ils ont été blessés. Il y a eu certainement des choses. Même, on ne se rend pas forcément compte. La reine l'a aussi dit dans son communiqué. Les souvenirs peuvent varier. Peut-être qu'il y a eu des choses blessantes qui ont été dites. En tout cas, elles sont impardonnables. Le racisme est bien sûr quelque chose que la famille royale n'a jamais toléré. Et on imagine mal la reine Elisabeth II, après près de bientôt 70 ans de règne, elle qui est la chef d'État de tant d'États dans le monde, être raciste. Et le prince Philippe n'était pas raciste non plus.
Quelle est leur vie aujourd'hui ? C'est la question que l'on se pose. Vous les avez eu au téléphone, Harry et Meghan ?
Oui, ils vous embrassent.
Ah bah écoutez, ils vous embrassent. Je sais même qu'ils nous écoutent, on les salue. Comment va la reine ? Aussi, vous parliez d'Harry et de William qui se sont revus. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. Merci d'être avec nous.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Depuis 20h donc, bientôt 1h pour cette première de jour J, nous parlons d'Harry et de Meghan. Alors on s'intéresse évidemment aux raisons qui ont fait qu'à un moment donné ils ont décidé de s'envoler pour le Canada. Aujourd'hui ils vivent en Californie.
À Montecito, à 150 km au nord de Los Angeles, à côté de Santa Barbara.
Alors c'est quoi leur vie ?
C'est une vie terrible, fait de labeur, dans un tout petit appartement. Non, pas du tout. Ils ont une incroyable villa qu'ils ont achetée 12 millions de dollars. Une villa de 1 700 m². Leur voisin s'appelle Gwyneth Paltrow, Oprah Winfrey.
Et ils ont traversé le jardin quoi pour aller faire l'interview.
On s'est demandé. Alors c'était pas leur villa néanmoins parce qu'on a quand même quelques indices sur ce que pourrait être la décoration de Meghan et Harry. Alors aujourd'hui, ils ont aussi signé des deals avec des géants comme Spotify ou Netflix. Mm-hmm. Ils se dirigent vers une vie de producteur. Avec à cœur, malgré tout, de faire rayonner toujours leur fondation et leur combat, parce que ce sont des gens aussi qui sont très engagés, notamment pour l'éducation des filles. Le prince Harry est en train d'écrire ses mémoires, qui doivent sortir en 2022. Je pense pas que ça va faire plaisir de nouveau à Buckingham et à Rennes. Mais c'est une vie, malgré tout, de privilégiés aujourd'hui sur la côte ouest.
Mais alors, on a l'impression qu'ils ont tout gagné dans cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont perdu ? À quoi ont-ils renoncé ? Parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur pouvoir ou à leurs droits. Enfin, il y a certaines choses qu'ils ont pu conserver. Ça a été le fruit du négo quand même avec la reine Elisabeth.
C'était le fruit d'une négociation. Suite à leur annonce le 8 janvier 2020, la reine a convoqué Harry, le prince Charles, le prince William à Sandringham pour ce qu'on appelait le sommet de Sandringham. Et les négociations ont commencé. C'est ouverte une période d'un an de transition qui est depuis terminée. En fait, ils ont beaucoup perdu parce que nous, on voit ce côté ensoleillé, presque prison dorée. Mais ils ont gardé leur titre de duc et duchesse de Sussex, mais ils ne peuvent plus l'utiliser. Ils sont toujours Altesse Royale.
Donc c'est juste pour eux, quoi.
C'est juste pour eux.
D'accord.
Harry a perdu tout ce qui est ses titres honorifiques militaires. Il était capitaine général des Royal Marines, un titre militaire auquel il croyait beaucoup, auquel il tenait beaucoup puisqu'il l'avait hérité du prince Philippe. Ils ont perdu leur parrainage. On peut plus être marraine ou parrain d'une grande organisation britannique ou du Commonwealth. Et puis ils espéraient surtout pouvoir continuer à représenter la reine. Et ça, c'est terminé. Et d'ailleurs, on l'a bien vu pendant les obsèques de Philippe. Si les hommes de la famille sont tous en costume et non pas en uniforme. Alors, il y a aussi le problème du prince Andrew, mais il y a aussi parce que, normalement, Harry ne peut plus porter l'uniforme. Il doit être aujourd'hui en black tie.
Et black tie, c'est donc la
costume cravate.
Voilà.
En costume cravate. Et je pense que dans cette négociation, finalement, ils ont espéré avoir un nini et ils ont eu un non et un non quasi définitif de la reine.
On a vu Harry et son frère William, dont il était effectivement si proche, réunis dernièrement pour une commémoration aussi, en l'hommage de leur mère Diana. Comment
les
ça 60 s'est passé
ans, les 60 ans, enfin ce qui aurait dû être les 60 ans de la princesse de Galles, inauguration d'une statue dans les jardins de Kensington, où la princesse a vécu, et où ils ont vécu enfants. Ce fut très très bref. Bien sûr, Meghan n'était pas là parce qu'elle venait d'accoucher de leur fille, Lilibet Diana.
Est-ce que c'est une excuse qui a été avancée ou est-ce qu'elle aurait pu décemment...
Je pense qu'on peut toujours prendre un avion. Néanmoins, on ne peut pas aussi lui reprocher, alors qu'elle vient d'avoir un nourrisson, de ne pas traverser l'Atlantique et tout le continent américain, alors qu'on est quand même malgré tout dans une période de pandémie mondiale.
Mais est-ce qu'elle aurait été acceptée ? C'est ce que je veux vous dire par là.
Oui, c'est un peu le problème. Et surtout, est-ce que les réactions auraient toutes été positives ? Après, il n'y avait pas de public, ça a duré, montre en main, je ne me souviens plus, mais 15 ou 20 minutes. On n'a pas senti d'extrême chaleur, ils ont fait le job, pas plus.
C'est terrible parce qu'effectivement, on parle d'une famille, et là vous parlez de faire le job. On a quand même le sentiment qu'à la cour d'Angleterre, on fait quand même beaucoup le job, quoi.
Mais pourquoi s'appelle-t-il entre eux la firme ?
Ouais,
parce que c'est aussi une entreprise. Et bien sûr, pour nous c'est terrible parce qu'il y a des sentiments, mais il y a aussi... pas un business, mais néanmoins un devoir. Le devoir, c'est leur raison d'être. Si demain, ils ne représentent plus, ils ne font plus le job, comme je le dis, et pardon pour l'anglicisme, à quoi bon demander aux Britanniques de continuer à financer cette institution millénaire qui est la couronne ?
Alors donc, aujourd'hui, ils vivent bien.
Oui.
Aujourd'hui, ils vivent sous le soleil. Aujourd'hui, ils sont riches à millions encore. Ils ont des projets. Est-ce que Harry n'a pas gagné quelque part aussi une grande forme de liberté à travers cette décision ?
C'est certain, il s'est affranchi d'un modèle, d'un carcan. Meghan l'a aidé. Ils construisent quelque chose de différent. Ils construisent une troisième voie. C'est-à-dire qu'ils, peut-être qu'ils sont en train de créer un nouveau modèle. Après, je ne doute pas que ça doit être difficile d'être loin de sa grand-mère, d'être loin de son père, même, et de son frère, et puis même de l'armée britannique, de ne plus pouvoir... il faut se réinventer, et je pense que c'est beaucoup plus difficile pour lui, qui est née dans l'institution, pour elle. Elle est revenue à la maison, finalement, en Californie. Oui. Et bien sûr, on verra dans les prochains mois, et notamment à la lueur de son autobiographie qui doit sortir fin 2022, quelles seront les prochaines étapes. Est-ce qu'on assistera encore à une libération ou est-ce qu'on assistera à un apaisement? Les jeux sont ouverts.
Est-ce que l'on est rancunier dans la famille royale d'Angleterre? Est-ce que l'on peut pardonner? Est-ce que l'on peut espérer un jour voir tout ce joli monde réuni pour une photo?
La reine l'a dit, ils seront toujours des êtres très aimés de la famille royale britannique. Et je pense que là aussi c'est sincère. Après, forcément, quand Elisabeth II ne sera plus là, il va y avoir pas un rétrécissement, mais une concentration sur Charles, sur William, sur George. Meghan et Harry ne font pas partie de l'appareil institutionnel et on peut craindre que le feu médiatique qu'ils aient provoqué s'atténue avec le temps et que malgré tout, l'attention médiatique retombe un petit peu. Regardez, finalement, c'est un peu ce qui est arrivé à d'autres couples en rupture de ban avec la famille royale.
Ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'au fond d'eux, William, son père Charles, certains membres de la famille royale, je ne vais pas dire envie Harry, mais quelque part se trouve que lui, il a peut-être eu l'audace et la possibilité de faire ce que d'autres peut-être auraient aimé faire.
Peut-être, et d'un autre côté, est-ce qu'il ne se sente pas abandonné par ce grand départ? Ouais. Un exil voulu et à la fois aussi un peu forcé, puisque je pense qu'il aurait voulu jouer sur les deux tableaux. C'est difficile, bien sûr, de percer les sentiments qui peuvent aujourd'hui habiter cette famille. Néanmoins, j'espère, et tout le monde espère, et eux les premiers, que quelque chose va se retisser et que les plaies d'hier vont se cicatriser pour créer quelque chose de nouveau. On verra, on le verra ensemble.
Eh bien, vous viendrez nous voir. Merci beaucoup, Thomas Pernette, d'avoir accepté mon invitation dans cette première de jour J. Vous êtes notre parrain, dites donc.
Félicitations, Freddy.
C'est pas mal, non?
Oh oui, je suis fier.
Votre livre, Elisabeth II, Les chapeaux de la couronne, sortira le 29 septembre prochain aux éditions EPA. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. J'étais tellement heureuse de vous retrouver sur l'antenne d'RTL. Quelle joie! À demain, 20h, pour un nouveau rendez-vous de jour J sur RTL. Nous parlerons de l'inculpation de Madame Claude, la proxénète la plus célèbre de France, qui a fait trembler jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. C'était le 19 mars 1992. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute d'RTL. Je vous dis à demain dans Jour J.